Les colloques du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue ici au Collège de France. Vous avez fait l'effort d'affronter les températures. Je ne sais pas si à Marie, il faisait aussi chaud aussi à l'époque. Ça, je ne sais pas, au niveau des études climatologiques, est-ce qu'on sait là combien on sait à peu près. Bon, bah alors peut-être vous allez l'apprendre. Moi, je reviens à mon texte parce qu'autrement, on n'en finira pas. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue au colloque consacré au terme « Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie ». Vous avez l'intitulé ici, « Au XVIIIe siècle avant notre ère ». Donc, organisé par le professeur Dominique Charpin et toute son équipe. Et depuis plusieurs années, les travaux de Dominique et tous ceux qui travaillent avec lui, sans évidemment oublier Jean-Marie Durand qui peut pas être présent, ce qui est regrettable. Donc tous ces travaux ont profondément renouvelé notre compréhension du Proche-Orient ancien et contribué à faire des archives mésopotamiennes l'un des laboratoires les plus féconds pour l'étude des sociétés antiques. Donc, ce colloque porte donc le même nom que le programme que Dominique dirige avec un financement de l'Agence nationale de recherche depuis le 1er octobre 2022. Et cette rencontre, aujourd'hui et demain, va permettre de présenter les résultats des nombreuses recherches entreprises dans ce cadre, avec l'aide de nombreux spécialistes que je salue, qui sont venus, certains sont venus de loin, et qui ont accepté d'intervenir dans ce colloque. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnes du Collège de France et de l'équipe de Dominique qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Alors, c'est un colloque qui invite à réfléchir sur l'une des périodes les mieux documentées et les plus fascinantes de l'histoire du Proche-Orient ancien, le XVIIIe siècle avant notre ère, époque des grands royaumes amorites et notamment le royaume de Marie. Il s'agit d'un moment historique décisif, marqué par de profondes récompositions politiques, par l'affirmation de nouveaux pouvoirs et le développement de réseaux diplomatiques qui reliaient entre eux les principaux centres du croissant fertile. Et cette période présente une caractéristique exceptionnelle pour l'historien, et qui rend le bibliste que je suis très jaloux. Elle est connue par une documentation et une richesse sans équivalent. Les milliers de tablettes cunéiformes découvertes permettent de comprendre avec une précision remarquable le fonctionnement quotidien d'un État, les mécanismes du pouvoir, la circulation de l'information et les pratiques du gouvernement. Les archives de Marie occupent en effet une place tout à fait particulière, mise au jour à partir, alors je ne sais pas, 33 ou 34.
Les textes, c'est 34.
34 pour les textes. Alors, le site a commencé à être fouillé 33, et les textes, donc, 34. Elles constituent le plus extraordinaire ensemble documentaire de tout le Proche-Orient ancien. Grâce à elles, nous pouvons suivre les activités des souverains, presque jour au jour, lire leurs correspondances, observer leurs relations diplomatiques, leurs préoccupations militaires, leurs décisions administratives, et même certaines de leurs inquiétudes, l'inquiétude personnelle, voire amoureuse. Peu d'autres civilisations antiques nous permettent une telle proximité avec les acteurs de l'histoire. À travers de ces milliers de lettres, des rapports, des comptes et des documents administratifs, ce sont des individus de chair et de sang qui réapparaissent devant nous, les rois, les reines, les gouverneurs, les scribes, les devins, les prophètes, les marchands, les diplomates, les messagers, etc. Permettez-moi de vous rappeler aussi que, voilà, je parle comme bibliste, que les archives de Marie ont exercé une influence considérable sur les recherches bibliques. Dès leur publication, elles ont attiré l'attention des historiens de la Bible en raison des nombreuses analogies qu'elles révélaient avec le monde social et politique du Levant au début du deuxième millénaire avant notre ère. Sans fournir évidemment des possibilités de datation des textes ou des traditions bibliques, ils ont offert un cadre comparatif exceptionnel pour l'étude des structures tribales, des réseaux de parenté, des déplacements de population, des alliances entre groupes, des pratiques diplomatiques ou encore des phénomènes prophétiques. je crois, Jack Sassoon va parler de manière plus détaillée sur ces questions. Ils ont ainsi contribué à replacer les traditions bibliques dans leur contexte proche-oriental et rappeler combien l'histoire d'Israël de Juda ne peut être comprise indépendamment de celle des grandes civilisations qui l'entouraient. Le thème de ces colloques intéresse aussi le bibliste, mais au-delà tout historien de l'Antiquité, puisqu'il nous conduit à examiner l'un des aspects les plus fascinants de cette documentation, les relations entre pouvoir et culture écrite. Nous savons que la Mésopotamie est l'un des berceaux de l'écriture. Pourtant, l'écriture n'était pas seulement un moyen d'enregistrer les informations. Elle constituait aussi un instrument fondamental de l'exercice du pouvoir, de la transmission du savoir, des lois, des traditions religieuses. Gouverner un royaume suppose de collecter des informations, de transmettre des ordres, de gérer des ressources, de contrôler des territoires parfois éloignés et de conserver la mémoire des décisions prises. L'écriture rendait possible chacune de ces opérations. Les lettres permettaient au souverain de faire sentir sa présence bien au-delà de sa résidence. Les archives assuraient la continuité de l'administration. Les listes, les inventaires et les comptes facilitaient la gestion des biens et des personnes. Les traités et la correspondance diplomatique contribuaient à structurer les relations entre différents États. L'écrit était donc bien davantage qu'un simple reflet du pouvoir. Il participait activement à sa construction et à son fonctionnement. Mais une réflexion sur la culture écrite au XVIIIe siècle avant notre ère ne saura se limiter à l'étude des tablettes elles-mêmes. Les archives de Marie nous invitent également à dépasser peut-être une opposition trop simple entre oralité et écriture. Nous avons parfois tendance, en tant qu'historiens, philologues, à privilégier les documents écrits parce qu'ils constituent l'essentiel de nos sources. Pourtant, les sociétés que nous étudions demeurent fondamentalement des sociétés de parole. Les lettres conservées dans leurs archives étaient souvent transportées par des messagers chargés de compléter leur contenu par des explications orales. Les négociations diplomatiques, les audiences royales, les consultations, les enquêtes, les délibérations se déroulaient avant tout dans l'échange verbal. Même chose pour les prophètes. Les proclamations publiques, les sermons, les témoignages et bien des pratiques religieuses relevaient également de cette performance orale. Donc les tablettes que nous lisons aujourd'hui grâce au travail de tous les assyriologues, ne représentent donc qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de communication et d'interaction. Elles sont des vestiges écrits d'un univers dont une grande part demeurait orale. Les archives de Marie nous rappellent que ce que nous conservons aujourd'hui est avant tout la partie écrite d'un immense continent oral dont nous ne pouvons souvent pas, nous percevons souvent que les traces indirectes. L'écriture apparaît dès lors moins comme un système autonome que comme l'un des éléments d'un réseau complexe où mémoire, paroles et documents écrits se complétaient et se renforçaient mutuellement. Comprendre donc le rapport entre pouvoir et culture écrite suppose aussi de comprendre les multiples façons dont l'écrit et l'oral s'articulaient dans la société, dans les domaines du politique, de l'économique, du religieux. Cette perspective conduit également à nous interroger sur ceux qui maîtrisaient l'écriture. La culture écrite ne se résume pas à un ensemble de textes. Elle implique des acteurs, du savoir-faire et des institutions. Les scribes occupaient à cet égard une position existentielle, et plusieurs communications sont consacrées à cette question, dépositaires des compétences, spécialistes acquises au terme d'une formation, d'une longue formation, souvent ils étaient à la fois administrateurs, secrétaires, archivistes et aussi savants. Ils rédigeaient des lettres, conservaient les documents, transmettaient les informations, contribuaient à la circulation des savoirs. À travers eux se nouait donc un lien étroit entre la maîtrise de l'écrit et l'exercice de l'autorité. L'étude de ces phénomènes que vous allez explorer aujourd'hui et demain dépasse donc largement le cadre de l'histoire mésopotamienne, puisque les questions qui seront abordées au cours de ce colloque rejoignent les problématiques qui occupent aujourd'hui une place importante dans les sciences humaines et sociales. Comment le pouvoir produit et organise l'information ? Comment les institutions administratives se construisent-elles ? Quel rôle jouent les archives dans la formation des États ? comment les savants spécialisés participent à la légitimation de l'autorité. Donc les nombreuses communications qui vont se succéder au cours de ces journées permettront d'explorer ce thème sous des angles multiples. Les communications aborderont les pratiques administratives, les réseaux de correspondance, les institutions scribales, les mécanismes de décision, les formes de légitimation du pouvoir, les usages de l'écrit, les interactions complexes entre documents, savoir et gouvernement. Cette diversité des approches reflète la richesse même du sujet. Elle témoigne également du dynamisme des recherches actuellement en assyriologie, discipline dont la première chaire en France fut créée ici au Collège de France et qui est un domaine qui continue de se renouveler grâce à l'exploitation des nouvelles sources, à l'affinement des méthodes d'analyse et au dialogue constant entre les disciplines. Voilà, donc ce colloque va s'inscrire dans cette dynamique. Il offre l'occasion de faire dialoguer des spécialistes de différents horizons autour des questions qui touchent à la fois à l'histoire politique, sociale, culturelle et intellectuelle des sociétés mésopotamiennes. Donc, je forme le vœu que ces journées soient l'occasion des échanges fructueux, des discussions stimulantes, des nouvelles collaborations scientifiques. Merci encore une fois d'être là. On se réjouit de votre participation active et je vous remercie de votre présence et votre participation. Et je donne la parole à Dominique Charpin.
Je suis très reconnaissant à Thomas Römer, malgré une journée très chargée, puisqu'il a un conseil d'établissement juste après, d'avoir quand même voulu ouvrir notre colloque. Et je vais poursuivre avec une introduction qui sera relativement longue. On est donc réunis ce matin pour ce colloque qui marque un point fort du projet désigné par l'acronyme PCEHM, Pouvoir et Culture écrite en Haute Mésopotamie au XVIIIe siècle, qui a débuté en octobre 2022 et qui en est donc à sa quatrième année. Alors c'est dans le cadre de ce projet que j'ai organisé, comme je l'avais prévu, mes enseignements au Collège de France ces trois dernières années. En 2023-24, mon cours avait porté sur droit et vie juridique dans la Haute Mésopotamie du XVIIIe siècle, tandis que le séminaire était consacré à l'étude de textes juridiques de Marie avec la participation de Sophie Desmarlafon et de ses doctorants. En 2024-25, le séminaire a prolongé celui de l'année précédente, tandis que le cours s'intitulait « La Haute Mésopotamie au XVIIIe siècle, galerie de portraits », et donc j'ai esquissé le portrait d'un certain nombre de dignitaires du royaume de Marie à l'époque de Zimrilim. Et puis cette année, 2025-26, le cours a prolongé celui de l'année dernière, mais en faisant le tour des capitales, en étroit contact avec Marie, depuis Hazor au sud-ouest jusqu'à Ekalatoum au nord-est. Et comme vous le savez, tous ces cours sont enregistrés et les vidéos sont disponibles sur le site du Collège de France, relayées par la plateforme YouTube. En comptant les colloques que j'ai organisés, YouTube a comptabilisé 190 vidéos qui sont disponibles depuis 2014. Et donc, faites-en usage sans modération et faites-le aussi savoir autour de vous, parce que régulièrement, quand j'en parle, j'ai des gens qui tombent des nues en disant « Ah bon ?» Je dis « Ben oui, depuis 2012, le Collège de France a été pionnier en la matière et c'est une forme d'accès gratuit au savoir qu'il faut absolument faire connaître, non seulement pour la sériologie, mais pour toutes les disciplines qui sont enseignées dans cette maison. » Alors, par ailleurs, les membres du projet PCEHM ont déjà contribué à trois événements. Il y a eu d'abord le colloque de mai 2023, ici même au Collège de France, qui célébrait 150 ans d'études des archives paléo-babyloniennes. Pas moins de 8 communications concernaient la Haute Mésopotamie et Antoine Jacquet et moi-même sont très heureux donc de présenter le volume où sont édités les actes de ce colloque. La version imprimée est parue il y a 2 mois, le 20 avril, et la version numérique gratuite vient d'être mise en ligne. Donc vous pouvez regarder sur le site de la CEPOA et vous cliquez, vous avez la totalité de l'ouvrage sur votre ordinateur. Là encore, à faire savoir. le Collège de France s'inscrit dans le mouvement de la science ouverte, et donc c'est par des actions de ce genre, et grâce au soutien d'ailleurs financier du Collège de France, qu'on a pu le faire. Deuxièmement, il y a eu en décembre 2023 le colloque de Marimont qui célébrait les 90 ans du début des fouilles de Marie au Tel Hariri, à l'initiative de Laurent Colonna d'Istria et d'autres collègues, et on a 7 communications qui ont été données dans ce cadre par des membres du projet PCEHM, et les actes sont en cours d'édition. Et puis, troisièmement, en juillet 2025, lors de la 70e rencontre assyriologique internationale, deux membres du projet PCEHM, Vérène Chalandar et Francesca Nebbiolo, ont organisé une table ronde sur la Haute Mésopotamie, dont les actes sont également en préparation. Le colloque qui a lieu aujourd'hui et demain marque en quelque sorte le point d'orgue du projet PCEHM. Alors, une fois que j'ai écrit ça, je me suis dit, en fond, quelle est la définition exacte du point d'orgue ? Alors, voilà ce que j'ai trouvé comme définition. Dans la langue française, le terme point d'orgue symbolise l'apothéose d'un événement, un moment clé où tout semble suspendu avant la grande conclusion. D'ailleurs, on confond parfois cette expression avec summum ou point culminant, alors qu'en réalité, le point d'orgue est davantage une pause dramatique qu'un feu d'artifice final. Mais j'ai trouvé que ça allait assez bien. En effet, notre programme PCEHM n'est pas encore fini. Nous l'avons prolongé jusqu'en juin 2027, mais je pense qu'il est temps de faire le point sur les progrès de nos connaissances relatives à la Haute Mésopotamie du XVIIIe siècle, et c'est pour cela donc que nous sommes réunis pour ces deux jours. Et dans mon introduction, je voudrais commencer par rappeler brièvement les objectifs du projet. J'indiquerai ensuite un certain nombre de réalisations déjà acquises et je finirai par esquisser quelques perspectives pour la fin du projet. Donc, rappel des objectifs, nous sommes partis d'un constat, le début du deuxième millénaire se caractérise en Mésopotamie par ce qu'on a appelé une révolution de l'écrit. Celle-ci s'est d'abord opérée dans le centre et le sud de l'Irak actuel, et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on voit les nouvelles pratiques s'étendre en Irak du Nord et en Syrie orientale, donc en Haute Mésopotamie. Et les questions auxquelles le projet PCEHM souhaite répondre sont les suivantes. Dans quelle mesure la volonté politique est-elle à l'origine de cette révolution de l'écrit ? Inversement, dans quelle mesure ces innovations d'ordre culturel ont-elles modifié les conditions d'exercice du pouvoir ? Enfin, en quoi la documentation de la Haute Mésopotamie diffère-t-elle de ce qui est connu pour le sud de l'Irak actuel et pourquoi ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le niveau de formation des scribes en Haute Mésopotamie était demeuré assez rudimentaire, comme l'ont montré les tablettes cunéiformes de ce qu'on a appelé l'époque des Chakanaku, découvertes sur le Moyen Euphrate à Mari, mais aussi à Terka et à Toutoul. Et les rares lettres de cette époque sont d'une rédaction extrêmement elliptique qui ne facilite pas leur interprétation. Et c'est vers 1810 à peu près que de nouvelles normes s'imposèrent. On peut le constater presque en direct par la comparaison de deux versions du même texte administratif à Mari, écrit selon l'ancienne et la nouvelle façon. On a parlé à ce propos de babylonisation, mais le terme est trompeur, car il pourrait laisser penser que Babylone a joué un rôle dans ce processus. Or, il semble que cette transformation se soit opérée en réalité sous l'influence politique d'Eshnouna, une grande puissance du moment, et la publication par Grégoire Nicolet des textes scolaires découverts en 2000 au chantier K de Marie devrait permettre d'y voir plus clair. Dès lors, les méthodes de gestion de l'administration palatiale devinrent de plus en plus sophistiquées. Le pouvoir eut également recours à l'écrit pour transmettre des ordres et les faire circuler. Les messagers étaient désormais pratiquement tous porteurs de tablettes et la lettre devint incontournable, même entre chefs nomades ou petits roitelets des montagnes du Zagros. Les alliances, jusqu'alors conclues en réunion, purent se nouer à distance, chaque roi faisant porter à son homologue le texte écrit du serment qu'il souhaitait lui voir prêter, et les négociations portaient sur le détail des clauses et de leur formulation. En outre, les souverains légitimèrent leur pouvoir en recourant à l'écrit par le biais d'inscriptions royales qui ne se limitèrent plus à de brèves dédicaces. Le roi se faisait soumettre plusieurs versions du texte gravé sur le support de l'inscription et choisissait celle qui lui convenait le mieux. Ce processus a conduit à un développement considérable de l'écrit dans tous les domaines, et cela explique pourquoi les archéologues ont exhumé, pour le seul XVIIIe siècle, des milliers de tablettes en haute Mésopotamie, le hasard ayant joué évidemment un certain rôle dans ces découvertes. La plus célèbre demeure la première, à Tel Hariri, sur le moyen Euphrate syrien, entre 1934 et 1938, avec le lot qui reste le plus abondant, puisque les archives royales de Marie comptent environ 20 000 tablettes et fragments, dont plus de la moitié actuellement publiés, exactement 9 600 textes, mais un texte, ça veut dire parfois 5 numéros d'inventaire, donc ça fait plus que 9650 numéros. Et puis les fouilleurs ont mis au jour des archives dans de nombreux autres sites, comme à Chagarbazar, l'antique Ashnakoum, à Shemshara, l'antique Shushara, à Tel Ashara Terka, à Tel Rima Katara, à Tel Biya Toutoul, à Tel Leilan, Shubaten Lil Sherna, et récemment à Tel Tabal. Et le total des textes, non pas découverts, mais publiés, se situe à 2000. Et ces documents couvrent, pour l'essentiel, une période de moins d'un siècle, entre environ 1810 et 1728 avant notre ère. Alors, un avantage considérable propre à cette région, c'est le fait que la quasi-totalité des écrits provient de fouilles régulières et relativement récentes. À cet égard, la situation est bien meilleure que pour la Mésopotamie centrale ou méridionale, où plus de la moitié des textes sont issus de fouilles anciennes mal documentées ou de fouilles irrégulières. De plus, la majorité des écrits de Haute Mésopotamie documentent directement les activités sociales, économiques et politiques des palais où ils ont été retrouvés. Et cela contraste avec la Mésopotamie centrale et méridionale, où les archéologues n'ont découvert jusqu'à présent que très rarement des archives liées directement à l'autorité politique, et les tablettes provenant essentiellement des maisons de particuliers ou encore de temples. Ces textes de Haute Mésopotamie constituent donc une source historique très riche pour analyser les phénomènes de diffusion de la culture écrite à l'échelle des aires d'influence des pouvoirs locaux et régionaux. Les spécialistes les ont jusqu'à présent étudiés avant tout pour les informations qu'ils livrent, et il faut désormais les examiner en tant que tels, c'est-à-dire des dispositifs ayant permis aux rois et à leurs représentants d'exercer le pouvoir de manière plus efficace, en supprimant, si l'on peut dire, l'obstacle de l'espace. On assiste à une véritable révolution dans la transmission de l'information, comparable plus ou moins à celle du télégraphe au milieu du XIXe siècle, ou encore à l'Internet à la fin du XXe. Et c'est à ces certains aspects de ce questionnement que les 21 communications réparties entre aujourd'hui et demain tenteront de répondre. Je voudrais poursuivre cette introduction en mentionnant quelques-unes des réalisations qui ont déjà été effectuées dans le cadre de notre projet, et vous pourrez les retrouver plus en détail sur le carnet de recherche hypothèse qui est tenu à jour avec beaucoup de constance par Vérène Chalandard. Tout d'abord, nous avions insisté dans le projet soumis à l'ANR sur la nécessité de donner un meilleur accès à l'énorme documentation déjà publiée, mais de façon très dispersée. La base de données Archibimb devait être l'outil essentiel à cet effet. Deux étapes ont été franchies tant en ce qui concerne le fonctionnement du site que son contenu. Il faut le reconnaître, en 2022, la base Archibab accessible sur la toile était vieillissante. Elle avait débuté en janvier 2010, ses possibilités avaient été étendues peu à peu, mais vu les progrès très rapides dans ce domaine, il est devenu de plus en plus clair qu'une simple amélioration de l'existant, à laquelle nous avions fait allusion dans le programme déposé à l'ANR que j'ai relu à l'occasion de cette introduction, une simple amélioration de l'existant ne pouvait pas suffire. Et c'est ce qu'a compris Christian Gobert dès qu'il a rejoint l'UMR 71-92 en avril 2022, si je ne m'abuse, et donc épaulé par Antoine Jacquet, il a conçu un site web entièrement nouveau avec les outils open source aujourd'hui disponibles. Et ce nouveau site a été mis en ligne en janvier 2025. Voilà un an et demi que toute la communauté peut tirer profit de ces très riches fonctionnalités, dont certaines n'ont pas d'équivalent en assyriologie. Je pense en particulier à l'absence de limites dans les recherches multicritères. Vous avez à l'écran une combinaison qui permet d'obtenir tous les passages des lettres de Marie où le devin Ascoudoum se livre à la recherche de présages. Et j'aurais pu multiplier les exemples de ce genre. Je pense aussi aux liens qui existent dans les deux sens entre la bibliographie et les textes. On bascule d'un simple clic de l'un à l'autre et c'est extrêmement commode. Et puis je songe aussi à la cartographie extraordinaire qui a été installée. Et je dois ici souligner l'un des points forts d'Archibab, le fait que la base sert de dépositaire pour d'autres projets financés antérieurement ou à côté, dont elle contribue à valoriser les résultats. En ce qui concerne la géographie historique de la Haute Mésopotamie, il s'agit de IGOMES suivi de TextElsem, pour la lexicographie du projet Laying the Groundwork for a Corpus-Based Dictionary of Old Babylonian, et d'autres projets vont prendre le relais. La deuxième bonne nouvelle, qui remonte à quelques jours, et qui mérite d'être souligné aujourd'hui, c'est le fait que désormais, le catalogue des textes dans la base Archibab est complet. Donc, quelques 36 000 textes d'archives paléo-babyloniens qui ont été jusqu'à présent intégralement publiés, sans compter des centaines de textes partiellement cités, eh bien, chacun de ces textes possède désormais une notice dans la base de données. Chaque notice comporte au moins l'indication bibliographique de la première publication, mais aussi, le plus souvent, la cote de musée, un résumé, la date si elle existe, le lieu de découverte, au moins dans le cas de fouilles régulières, et le lien vers copie ou photo lorsqu'elle est disponible. Nous allons continuer, bien sûr, à augmenter les métadonnées, et le but ultime, c'est que tous les textes soient disponibles avec une bibliographie aussi complète que possible et pourvus d'une édition électronique lématisée. C'est déjà le cas de plus de 50% du corpus, et notamment de la totalité des quelques 8000 lettres paléo-babyloniennes. En ce qui concerne la Haute Mésopotamie, qui constitue environ le tiers de cet ensemble, il faut souligner que désormais, la quasi-totalité des 9650 textes de Marie intégralement publiés sont présents dans la base, avec au moins une transcription. Presque toutes les 3120 lettres découvertes à Marie et actuellement publiées sont accessibles en transcription lématisée, traduction et notes, le tout accompagné de copies et ou de photos. Les rares lacunes qui subsistent sont des corpus en cours de réédition, comme ARM4 par Nelle Ziegler, ARM8 par moi-même ou ARM19 par Jean-Marie Durand. Pendant les 44 mois écoulés depuis le début du projet, les textes de volume entier ont été traités, d'abord des parutions récentes, les volumes de lettres de ARM34 et ARM35 dus à Jean-Marie Durand, pour lesquels on a donné, outre l'édition électronique, les photos inédites. Le projet a également permis de traiter rétrospectivement beaucoup d'anciens volumes de textes administratifs qui avaient jusqu'à présent été laissés de côté, faute de temps et de moyens, ARM 11, ARM 12, et deux volumes où on a affaire à de véritables rééditions grâce aux collations et aux joints effectués par Jean-Marie Durand, ARM 25 depuis un certain temps et ARM 22 tout récemment, pour lesquels on a également donné des photos de la plupart des tablettes qui étaient encore restées dans nos archives et qui désormais sont à la disposition de tous. Voilà un exemple d'un joint interne entre les numéros 105 et 107. Vous avez une réédition du texte reconstitué et vous avez également la photographie. Et nous sommes en train de terminer les volumes ARM 7, 9, 24, ainsi que FM 10. Donc, les quelques centaines de textes qui restent à entrer et ou à lématiser devraient pouvoir être assez vite achevés, et il faut ajouter la réédition des textes de Chagar-Bazar découverts par Malouane avant la guerre. La base Archibab a été une aide considérable dans les recherches menées depuis octobre 2022, et je voudrais maintenant rapidement citer les publications qui sont déjà issues de nos travaux. Donc des livres, des contributions à des ouvrages collectifs, articles de revue ou encore des notes brèves. Les deux principales publications de textes parues à ce jour sont ARM 34 et 35, deux volumes dus à Jean-Marie Durand, publiés en 2023 et 2024, et qui totalisent pas moins de 424 lettres. Et on y trouve notamment des dizaines de lettres écrites par des chefs nomades, ce que le titre des ouvrages ne permet malheureusement pas de supposer. Il s'agit d'abord de chefs yaminites hostiles à Zimrilim au début de son règne, comme Khardoum, Samsi Adou ou Soumoudabi, mais aussi de rois de la génération suivante, comme Yasmaradou, Tsurahamou, Yardunlim ou Yarimlim. Il s'agit aussi de responsables appartenant, comme Zimrilim, à la tribu des Simalites, tels que Ashmat ou Khali Khadoun. Les richesses de ces livres commencent tout juste à être exploitées, comme nous aurons l'occasion de le voir aujourd'hui et demain. Des membres du projet PCEHM ont contribué à, ou même organisé, des ouvrages collectifs portant sur des domaines variés. Trois sont parus. En ce qui concerne la géographie historique, on note avant tout le volume BBVO 30, édité par Adélaïde Otto et Nelle Ziegler, avec quatre contributions de membres du projet. L'une d'elles, vous le savez, pour la plupart, contient une découverte fondamentale, l'identification par les éditrices du volume de l'antique capitale d'Ekalatoum avec l'hôtel Houwaïch à une quinzaine de kilomètres au nord d'Achour, sur la rive droite du Tigre. Et puis on note également la réédition des itinéraires qui parcouraient la haute Mésopotamie avec la mise en évidence de nouvelles routes. Le point sur les archives de haute Mésopotamie a été fait dans Archibab 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. 9 contributions concernent entièrement ou partiellement la haute Mésopotamie. Et puis, dans le domaine de la chronologie, il s'agit du livre édité par Werner Nahm et Michael Roth qui vient de paraître, et on y trouve deux études, de Nelle Ziegler et Denis Lacambre. Et vous aurez vu que pour chacun de ces ouvrages, j'ai marqué en bleu le lien qui permet d'avoir accès gratuitement à leur contenu. Deux autres volumes sont encore en cours de publication, je l'ai déjà mentionné, les actes du colloque de Marimont de décembre 2023 et ceux de la table ronde de Prague de juillet 2025. Par ailleurs, une quinzaine d'études ont été publiées dans des revues ou différents ouvrages collectifs. J'en ai mis la liste à l'écran, vous pourrez revoir la vidéo de ma communication si vous voulez regarder le détail. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la série de notes brèves, donc on a intitulé « En marge de PCEHM ». Donc j'ai lancé le mouvement, mais ensuite j'ai été rejoint par un certain nombre d'autres auteurs et qui portent sur des sujets très variés, des découvertes ponctuelles qui ne méritent pas d'être délayées dans un article de 10 pages, mais qui parfois n'en sont pas moins importantes. Et puis, il faut pour finir mentionner une dizaine de contributions encore sous presse, sans compter les colloques et tables rondes que j'ai mentionnés tout à l'heure, et ma liste n'est sans doute pas complète. Je pourrais aussi citer les nombreuses conférences ou communications qui ont été données dans des cadres divers par des membres du projet, mais je ne prendrai pas le risque de vous lasser en faisant la liste. Je crois que, toute fausse modestie mise à part, le bilan des réalisations peut être considéré comme vraiment satisfaisant. Et pourtant, en dépit des nombreux résultats déjà atteints et publiés, il reste encore beaucoup à faire. Alors, je ne vais pas prendre l'image de se retrousser les manches, parce que un certain nombre d'entre vous font comme moi, avec la chaleur d'aujourd'hui, ont opté pour la chemisette, mais l'image vaut tout de même. Et donc, je voudrais commencer par vous présenter un certain nombre de transformations en cours sur la base Archibab, avant de passer aux publications en préparation. Du côté de la base Archibab, deux progrès considérables ont été effectués récemment, qui seront bientôt rendus publics. Jusqu'à présent, le système de recherche reposait sur la lémmatisation de noms propres ou de mots. Eh bien, désormais, on va pouvoir travailler sur des items encore plus petits, les unités primaires dans la notation des textes, à savoir les signes cunéiformes. Quand on a commencé en 2008, vu la masse des textes qu'on devait avoir, imaginer ça était quelque chose de très difficile, en raison même des limites des programmes de l'époque et des possibilités de calcul des ordinateurs auxquels nous avions recours. Désormais, c'est possible. Il a fallu un long et patient travail de normalisation des transcriptions déjà existantes, qui a été effectué avec beaucoup de mérite par Antoine Jacquet, et ainsi on va pouvoir retrouver plus facilement les signes cunéiformes eux-mêmes à l'aide de listes établies par Christian Gaubert. Et cette approche, évidemment, elle a un bénéfice pédagogique immédiat. Les transcriptions en caractère latin peuvent être instantanément transformées en cunéiformes. Et cette transformation tient compte de la lémmatisation, donc avec le système de codage en couleurs que nous avons adopté, le vert pour tout ce qui a trait au paysage et à la toponymie, le bleu pour les divinités qui sont pour la plupart dans le ciel, et puis pour les personnes, le rouge, parce qu'il fallait bien avoir une couleur primaire encore utilisée. Ça aide évidemment les débutants pour apprendre, et pour l'instant, vous avez le choix entre trois fontes différentes, celle d'Unicode, celle dite Santaku due à Sylvie Van Severen, et celle développée à l'Université libre de Berlin par Corvin Ziegler, et nous allons prochainement développer une fonte qui sera plus proche de la graphie courante de Marie pour permettre, là encore, aux apprentis à se perfectionner. Deuxième progrès lié au précédent, la possibilité d'annoter les images, aussi bien photos que copies. Le système est déjà opérationnel sur Archibab grâce au travail de Christian Gaubert et de Gaëtan Drouet. On ne l'a pas encore annoncé parce que le nombre de tablettes ainsi traitées est encore limité, malgré les efforts de plusieurs étudiants stagiaires, et rassurez-vous, ce sont des stages rémunérés dans le cadre du programme Europe de PSL. Et ici, il faut remercier la directrice de notre UMR, Nouria de Castilla, ainsi que Nelly Ziegler et Christian Gaubert, qui encadrent les stagiaires avec le concours de Luba Ziltsova. Ça fonctionne de deux manières. On peut d'abord partir de la photo et on survole un signe, à ce moment-là, eh bien, le système vous indique la valeur de base du signe, ici Dour, le numéro de Borger, ici 178, et puis la valeur contextuelle du signe, ici Tour 2, dans la séquence I Tour 2 As 2 Dou. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le système vous permet de cliquer dans la transcription et à ce moment-là, il va encadrer automatiquement le passage en question et vous amener à l'endroit correspondant dans la photographie. Donc ici, j'avais cliqué, j'ai pas voulu faire une démonstration en temps réel parce que c'est toujours un petit peu risqué, donc ce sont des images d'écran, mais croyez-moi, ça fonctionne vraiment de façon instantanée. Donc ici, j'avais cliqué sur la séquence Rumsan, et bien vous voyez que les signes correspondants sont encadrés, et cerise sur le gâteau, quand vous avez une séquence qui se trouve à cheval sur deux surfaces, ici la face de la tablette et la tranche, eh bien le système permet d'avoir les signes, vous les voyez deux fois, à la fois tels qu'ils sont sur la face et tels qu'ils sont sur le côté. Alors, vous savez que pour Marie, lorsqu'on a pris les photographies, les systèmes de laser 3D et autres LIDAR qui sont aujourd'hui disponibles n'existaient tout simplement pas, puisqu'on a dû rendre les tablettes au début des années 2000. Mais je trouve que rien qu'un outil de ce genre, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait important. Et en particulier, si vous voulez vérifier quelque chose sur une grande tablette, eh bien, ce système-là est extrêmement avantageux parce que il vous évite d'avoir à compter sur la photo, les colonnes, les signes. Vous irez directement contrôler le nom propre, par exemple, sur lequel vous avez un souci. C'est quelque chose qui va être extrêmement utile. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un long discours pour souligner l'intérêt de tous ces progrès, et en particulier le fait que la paléographie va pouvoir désormais reposer sur des bases solides et en ayant une bonne partie du processus qui sera automatisé. Les progrès viendront aussi de l'édition de textes supplémentaires. Donc, j'ai déjà rappelé que le corpus des textes de Marie actuellement publié approche des 10 000 textes, mais on est seulement aux deux tiers de l'effort total et on a une dizaine de livres qui sont actuellement dans un état avancé de préparation. Si on prend la chronologie comme fil conducteur, on peut distinguer deux ensembles de textes antérieurs à la période classique de Yasmaradou Zimrilim. Les textes d'Isha Kanaku, Jean-Marie Durand, achèvent actuellement le volume Florilegium Marianum 13, où il réédite les textes de ARM 19 avec collation et joint, complétés par plusieurs centaines d'inédits. Il aurait dû nous présenter ce travail ce matin, mais sa santé l'a malheureusement conduit à y renoncer. De mon côté, je prépare la publication d'environ 300 textes de l'époque de Yardunlim et Sumuyamam qui ont été découverts par Paro entre 1964 et 1966. Du point de vue des genres de textes, on peut distinguer trois groupes. D'abord, les lettres, pour lesquelles on relève notamment l'édition de la correspondance d'Ishmet Dagan par Nelle Ziegler, collation et joint pour les textes déjà publiés et publication de nombreux inédits. L'édition des lettres d'Itourazdou et de quelques autres correspondants écrites depuis Narour ou au sujet de Narour par Michael Guichard. Et puis, je dois également publier une synthèse sur la correspondance qui comporte l'édition de diverses lettres, notamment celle du secrétaire de Zimrilim. Pour les textes administratifs, on a l'édition de nouveaux textes de Chagar-Bazar par Denis Lacambre, la publication de documents comptables sur la viande par Lionel Marty. Vous voyez qu'à chaque fois, je pointe mon regard vers les différents auteurs qui travaillent dur pour nous offrir ces ouvrages sur lesquels ils travaillent. Et puis l'étude d'un lot de textes inédits sur le rendement des tisseuses par Grégory Chambon. Et là, il y a encore d'autres travaux, mais je ne peux pas être complètement exhaustif. Et puis pour les textes juridiques, J'essaye de terminer un volume sur Yarimadou qui comprendra à la fois texte juridique et lettres d'une manière qui est un peu nouvelle. Et puis, il y aura un deuxième volume avec la réédition de nombreux textes de ARM 8 et la publication d'une centaine d'inédits. Pour terminer cette introduction, je voudrais élargir la focale de deux manières, d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue scientifique. Le premier point que je voudrais souligner, c'est l'utilité de la recherche sur projet. Tous ces résultats n'auraient pas pu être obtenus sans le financement que nous avons reçu de l'Agence nationale de la recherche et qui a été réparti entre deux partenaires, l'UMR 71-92 PROCLAC et l'UMR 82-10 ANIMA. Mais j'ajouterai aussitôt deux compléments. Le premier tient à la place dans la recherche des unités mixtes de recherche qui associent différents établissements. Et en l'occurrence, bien des choses n'auraient pas été possibles si, outre le financement de l'ANR, nous n'avions pas bénéficié du soutien permanent du Collège de France et si le CNRS n'avait pas attribué à l'UMR 71-92 PROCLAC un poste d'ingénieur de recherche. Le second point, de manière plus générale, c'est celui de l'équilibre à trouver entre recherche sur projet et nombre de postes fixes qui n'est clairement pas atteint actuellement. Le nombre de postes pérennes, en particulier, est nettement insuffisant. Et, en ce qui concerne notre domaine, non seulement ce chiffre n'augmente pas, mais pire encore, on est bien loin d'avoir le simple remplacement des départs à la retraite. Et je souhaitais rappeler ce fait ce matin. Des jeunes ont été formés, un vivier existe, il ne manque que des postes pour que la relève soit assurée. Passant à un point de vue scientifique, je voudrais souligner que la première moitié du deuxième millénaire a été un moment crucial dans l'histoire de la civilisation mésopotamienne. C'est ce qu'a indiqué René Labatte dans sa leçon inaugurale au Collège de France, prononcée le 23 mai 1952. Il avouait « Nous avons été longtemps victimes d'une illusion en supposant que l'apogée de la civilisation assyro-babylonienne se situait à l'époque glorieuse des Sargonides. Les milliers de tablettes qu'Assurbanipal avait réunies dans sa bibliothèque nous avaient paru le signe d'une intense activité intellectuelle. » Elles ne sont en fait que littérature de copistes et de compilateurs, tout comme l'apparent éclat de la cour de Ninive n'était qu'un faste trompeur de bas empire. La période créatrice, l'âge d'or de la culture sémitique en Mésopotamie, nous savons aujourd'hui qu'il nous les faut chercher beaucoup plus haut dans le temps, à l'époque précisément, où à côté de la Babylonie de Hammurabi, viennent de nous être révélées la puissance politique et le rayonnement de Mari, d'Eshnouna, et de la Syrie de Samsi Addou. Il est important de réécouter ce texte 74 ans plus tard. On y sent le choc éprouvé par son auteur à la suite des découvertes qui venaient d'être effectuées en haute Mésopotamie et qui datent de la première moitié du deuxième millénaire. Et les découvertes n'ont pas cessé depuis. Lundi, Jack Sasson relayait l'annonce de la découverte d'une vingtaine de tablettes paléo-babyloniennes et d'une centaine de scellements lors de la dernière campagne de fouilles à Kurdistan, l'antique ville de Kabra. Il s'est manifestement passé quelque chose de particulier au début du deuxième millénaire. Et malheureusement, la majorité des assyriologues ne s'en rendent toujours pas compte. La lucidité de Labatte n'a guère fait d'émules. Simon Parpola et ses épigones se sont intéressés à l'époque néo-assyrienne et à ce qui a suivi, mais pratiquement jamais à ce qui a précédé. Il faut avouer que l'autorité de l'équipe du dictionnaire de Chicago n'a pas été étrangère à l'erreur de perspective que Labatte dénonçait et qui persiste de nos jours. Et je citerai ce que Léo Oppenheim avait écrit en 1968 dans son obituaire de Benno Landsberger. Bien qu'il ait toujours été à la pointe des connaissances en assyriologie, Il suffit de se référer à ses travaux sur les sources en paléo-assyrien ou en paléo-babylonien. Il était pleinement conscient de l'importance fondamentale pour notre discipline des textes de Kuyunjik, qu'il n'a cessé de mettre en avant pour contrer les tendances centrifuges qui menaçaient le domaine. L'importance de la bibliothèque de Ninive est incontestable dans le rôle qu'elle a tenu dans le déchiffrement du cunéiforme et de la langue akkadienne, et nous l'avons souligné l'an passé avec le colloque et l'exposition consacrée à Aupert, et j'indique au passage que les actes de ce colloque paraîtront cet automne dans le tome 120 de la revue d'Assyriologie. Cette bibliothèque est aussi l'endroit où on a retrouvé les manuscrits les plus nombreux pour reconstituer la littérature akkadienne, mais je dirais que la place qu'elle a tenue dans l'histoire des découvertes a faussé bien des perspectives. C'est ainsi qu'une certaine conception de la langue akkadienne s'est créée par rapport à laquelle les textes de Mari ou d'Eshuna ont été qualifiés dans le CAD bien souvent comme périphériques. Et je me rappelle avoir parlé jadis avec Eric Arener de la langue de Mari, elle refusait de la considérer comme du véritable acadien. On doit à la vérité de dire que Wilfred Lambert a été plus clairvoyant sur ce point. Il avait compris que l'arrivée des Amorites a en quelque sorte libéré la Mésopotamie du carcan sumérien qui pesait jusqu'alors sur son développement intellectuel. Et c'est effectivement dans la première moitié du deuxième millénaire que se situe le florouite de la littérature akkadienne. L'épopée de Gilgamesh, que nous admirons tant, est certes connue avant tout par les copies présentes dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, plus récemment dans celle du temple de Shamash à Sippar, d'époque néo-babylonienne, mais cette épopée a été écrite à l'époque paléo-babylonienne, et c'est le hasard qui fait que nous n'avons plus que quelques lambeaux de cette première version. Le développement de la correspondance étudiée récemment par Marine Béranger montre également cette vitalité. Et faut-il enfin rappeler que c'est une lettre de Marie qui a permis à Nelle Ziegler de résoudre le dilemme posé par le début de l'épopée d'Atrahasis. Nos collègues assyriologues et plus largement antiquisants doivent prendre conscience de l'importance cruciale des premiers siècles du deuxième millénaire. Et cela risque d'être de plus en plus difficile, car les recrutements ces dernières années, et pas seulement en France, privilégient le premier millénaire, et notamment par ce que je décrirais comme un effet mécanique. Dans bien des comités de recrutement, le poids des antiquisants classiques, auxquels s'additionne parfois celui des biblistes, contribue à cette tendance. Mais cela me semble regrettable. Le concept de « Achsenzeit », âge pivot plutôt que période axiale comme on traduit généralement, du philosophe Karl Jaspers, a connu plus qu'un certain succès, un succès certain. Mais le début du deuxième millénaire, plus de 10 siècles auparavant, est aussi un moment crucial dans le développement de l'humanité. Je pense que les contributions qui vont suivre vont montrer cela. Elles sont dues à des membres du projet, mais aussi à d'autres collègues, parfois venus de loin, qui vont contribuer à enrichir nos perspectives. Je leur suis personnellement reconnaissant d'avoir accepté notre invitation. Et bien entendu, je ne peux pas terminer sans remercier toutes celles et ceux qui, au Collège de France, ont aidé à la préparation de cet événement et que je préfère ne pas nommer de peur d'oublier quelqu'un. J'ajoute que le colloque a bénéficié d'un financement de la Fondation du Collège de France, à qui va une fois de plus toute notre reconnaissance. Et pour finir cette longue introduction, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.